La fois précédente, il y a 15 jours, nous avons commencé une série de prédications sur le thème prophète et prophétie, qui va nous tenir pendant quelques semaines pour découvrir, redécouvrir une dimension importante des textes bibliques, puisqu'un bon nombre de textes de l'Écriture sont des prophéties ou sont liés à des prophètes. Et ce matin, j'aimerais avec vous dissiper un malentendu. C'est le malentendu qui est lié aux prophéties et que nous associons parfois même exclusivement, aux prédictions. Quand on parle de prophéties, en dehors de la Bible même, on pense aux prédictions, aux prophéties, Nostradamus, prophéties, les Mayas, vous savez, on en parlait, tout ce qu'on veut. Et prophétie égale prédiction, et cette définition est complètement fausse. Bibliquement, une prophétie, ce n'est pas d'abord une prédiction. Même s'il peut y avoir certains aspects tournés vers l'avenir, des dimensions de prédiction ou d'annonce de l'avenir, de présentation du projet de Dieu qui est en marche, réduire, limiter une prophétie biblique, une compréhension d'une prophétie biblique à une prédiction d'événements à venir, futurs, est une grave erreur. Ça nous fait passer à côté peut-être même de l'essentiel de ce que veut nous dire une prophétie dans la Bible. C'est pourquoi je vous propose ce matin de lire deux textes qui éclairent cette dimension. La semaine prochaine, nous verrons qu'il y a quand même certaines prophéties qui annoncent des événements futurs, certaines dont même on a déjà rencontré l'accomplissement. Mais nous verrons ça la semaine prochaine. Je vous invite à lire ce matin deux textes. Le premier dans le prophète Jérémie, au chapitre 18. Jérémie chapitre 18, et nous lirons les versets 7 à 10. Quelquefois, dit le prophète au nom du Seigneur, quelquefois, au sujet d'un peuple ou d'un royaume, je parle d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si ce peuple abandonne le mal que j'ai condamné, alors je change d'avis au sujet du mal que je voulais lui faire. Quelquefois, à propos d'un autre peuple ou d'un autre royaume, je parle de construire et de planter. Mais si ce peuple ne m'écoute pas et fait ce qui est mal à mes yeux, alors je change d'avis au sujet du bien que j'ai promis de lui faire. Le deuxième texte, nous le trouvons dans le prophète Jonas. Lisons quelques versets de cette histoire étonnante. Jonas au chapitre 3, à partir du verset 4. Plus difficile à trouver, Jonas, hein, c'est un petit prophète, voilà. Jonas chapitre 3, à partir du verset 4. Jonas entre dans la ville de Ninive. Il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège, il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis le roi et ses ministres donnent cet ordre, « Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger et de boire. » Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait ? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Ils changent d'avis. Ils regrettent le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je le savais bien. Quand j'étais encore dans mon pays, c'est pourquoi Je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. » J'ai oublié de mettre la fin. Ces deux textes sont intéressants pour bien appréhender les prophéties bibliques, parce que dans les deux cas, de manière explicite, dans Jérémie, où ici une explication de la façon dont Dieu parfois annonce des choses concernant un peuple ou un autre, et d'une façon, on va dire, ironique, avec de l'humour, dans l'histoire de Jonas, dans les deux cas, on nous présente un Dieu qui peut changer d'avis. Dieu peut changer d'avis. Et ça change tout. Ce Dieu qui peut changer d'avis peut décider finalement de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'il avait annoncé. Parfois, je dis que je vais détruire et je ne détruis pas si le peuple se repent. Parfois, je dis que je vais construire et bénir et je ne le fais pas si ce peuple se détourne de moi. Et Jonas le savait très bien. Lorsque Dieu l'a envoyé, il l'a envoyé pour annoncer la destruction de Ninive. Et c'est tout ce qu'il a dit. Ninive sera détruite, rien d'autre. Et Ninive se repent, et Dieu ne détruit pas Ninive. Et Jonas se fâche, parce qu'il le savait. Parce qu'il connaissait trop bien le Seigneur, et il savait que même s'il annonçait la destruction de Ninive, que si ceux qui entendaient le message allaient se repentir, Dieu ne le ferait pas. Parce qu'il y a un Dieu, parce que nous avons un Dieu qui est prêt à changer d'avis. Cette expression peut nous paraître bizarre. Peut-être même qu'elle peut nous déranger, nous déstabiliser. Dieu qui peut changer d'avis. S'il change d'avis, est-ce que ça veut dire qu'il s'est trompé? S'il change d'avis, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en ses paroles, puisque tout d'un coup il peut dire quelque chose et il change d'avis, il fait autre chose? Si Dieu change d'avis, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est un Dieu fidèle? Est-ce qu'il n'est pas un peu inconsistant, ce Dieu qui est prêt à changer d'avis? Et certaines versions, je ne sais pas si vous connaissez ces textes, certaines versions traduisent même « Dieu changea d'avis » par « Dieu se repentit ». Parce que c'est le verbe qui parfois est utilisé pour parler de la repentance. Et ces traductions-là nous dérangent peut-être encore plus qu'un Dieu qui change d'avis. Alors, il y a sans doute un peu d'anthropomorphisme. Qu'est-ce que c'est que l'anthropomorphisme? C'est quand on projette sur Dieu des comportements, des façons de penser humaines. Vous savez, pour parler de Dieu, on n'a rien d'autre que notre langage humain. Et notre langage humain, il est imparfait pour parler d'un Dieu infini, tout puissant, éternel. Alors parfois, pour essayer de comprendre un peu mieux Dieu et son attitude, et ses paroles et ses actes, on projette sur lui ce que nous connaissons, ce qui relève de nos comportements humains. C'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Donc il y a sans doute un peu de cela dans ces affirmations aussi, de dire que Dieu peut changer d'avis, mais ça veut bien dire quelque chose quand même. Anthropomorphisme ou non, d'une manière ou d'une autre, Dieu peut changer d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie sans doute que le projet de Dieu n'est pas un projet immuable. Attention, ce n'est pas une affirmation théologique sur Dieu. Dieu lui-même, infini, éternel, ne change pas. Jacques, dans son épître, dit « Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. » Dieu est immuable dans sa nature. Mais on parle plutôt ici de ses desseins, de ses projets. Dieu n'a pas fixé arbitrairement, il y a très longtemps, avant la création du monde, un programme. Vous savez, il a programmé un logiciel qui fait que les événements qui se déroulent point par point exactement comme Dieu a déterminé devant son ordinateur. Vous savez, un logiciel, il a programmé le monde, et puis jusqu'au game over final, les choses se déroulent selon le plan préétabli, et puis nous, ben, on ne peut rien y faire, on observe, on regarde, on subit, et ça se passe comme ça. si vous avez cette conception-là du projet, du dessein de Dieu, vous avez une conception d'un Dieu froid, distant, insensible, un Dieu qui se soucie assez peu de ses créatures finalement, puisqu'il aurait tout déterminé d'avance, et que ces créatures ne sont rien d'autre que des marionnettes ou des robots intégrés dans le logiciel, le grand logiciel de l'histoire et du projet de Dieu. Je ne crois pas que ça soit une vision juste des choses. Dieu peut changer d'avis parce qu'il est en relation avec les créatures qu'il a faites. Dieu a un projet. Son projet va s'accomplir. Nous pouvons en être certains, en être sûrs, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est souverain. Mais ce projet de Dieu intègre de façon mystérieuse nos libertés, nos responsabilités, nos choix, bons ou mauvais, nos fidélités ou nos infidélités. On peut sans doute un peu comprendre cela en considérant le fait que Dieu n'a pas la même relation au temps que nous. Vous savez, nous, on est, qu'on le veuille ou non, enfermé dans une chronologie des événements. On naît, on vit, on meurt, les jours se succèdent, les uns après les autres, tout a un commencement, tout a une fin. Dieu, lui, est éternel. Lui n'a ni origine ni fin. Il est infini. Il n'est pas enfermé dans le temps chronologique. Si bien que nous, qui ne voyons que les choses se succéder les unes après les autres, Dieu, lui, dans son éternité, n'est pas enfermé dans cette réalité-là. Si bien que mystérieusement, il peut à la fois faire aboutir pleinement, entièrement son plan et son projet, tout en intégrant véritablement nos choix, nos fidélités, nos infidélités, notre liberté, notre responsabilité. Alors, vous avez du mal à comprendre ça ? C'est normal. Moi aussi. Et si on arrivait à le comprendre, on serait Dieu. Dieu, lui, peut le comprendre. Nous, nous pouvons le recevoir par la foi, dans la confiance, parce que nous savons, parce que nous le connaissons. Dieu n'est pas froid et distant, Dieu n'est pas un ordinateur, ou même un programmateur de logiciels. Dieu est notre Seigneur, notre Créateur, il nous aime. Dieu est sans cesse en quête de relation avec nous. Et c'est pour ça qu'il peut changer d'avis. Parce que ce que nous faisons et ce que nous disons compte pour Dieu. Il en tient compte. Il agit à notre égard aussi en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous vivons, des choix que nous prenons, de notre fidélité ou de notre infidélité. Changer d'avis, c'est changer d'attitude. C'est ce qu'on voit dans le texte du prophète Jérémie. Lorsque Dieu dit « je vais détruire », il change d'avis, il ne détruit pas. Il change d'attitude. Lorsqu'il dit « je vais bénir », il change d'avis à cause de l'infidélité du peuple qu'il voulait bénir et il ne bénit pas. Il change d'attitude. N'est-ce pas extraordinaire de se dire que nos actes, nos paroles, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, compte pour Dieu. Dieu n'est pas là simplement à nous observer de loin, à regarder comment les choses avancent, comment les choses se passent, indifférent. Il s'implique dans notre vie. Il s'implique dans notre histoire. Nos faits et gestes, nos choix, nos fidélités, nos infidélités comptent pour Dieu. Et il en tient compte. Il change d'avis, il change son attitude envers nous en fonction de ces choix que nous faisons. Parce que Dieu est en relation avec nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est d'être en relation avec lui. Il n'y a pas de relation si on ne peut pas changer d'avis, si on ne peut pas changer d'attitude. Une relation, vous voyez, quand on a une relation avec quelqu'un qu'on apprend à connaître, à apprécier, on change d'attitude, on change d'avis, on évolue, on modifie les choses. Si on ne bouge pas d'un poil, la relation finit par se briser, c'est pas possible. Dieu veut une vraie relation avec nous, il s'implique dans cette relation, et de façon mystérieuse, tout en accomplissant son plan, il est prêt à changer d'avis. Ce que je dis, ce que je fais, compte pour Dieu, le Créateur de l'univers. N'est-ce pas formidable ? Donc les prophéties bibliques nous sont données par un Dieu qui est prêt à changer d'avis, parce qu'il est en quête de relation avec ces créatures que nous sommes, et s'il envoie un message à travers ses prophètes, c'est pour renouer cette relation avec nous. Et justement, si Dieu peut changer d'avis, c'est qu'il nous envoie aussi des prophéties pour nous faire changer d'avis, pour que nous aussi nous changions, nous soyons prêts à changer. Les prophéties bibliques ne sont pas là premièrement pour nous informer sur des événements futurs, un calendrier des événements à venir qui conduiraient jusqu'à la fin du monde. Mais ces textes-là sont présents et sont dans l'Écriture pour nous interpeller, aujourd'hui encore, pour nous faire changer d'avis, et plus encore, pour nous faire changer de vie. Voilà la raison profonde des textes prophétiques. C'est la raison première lorsqu'ils ont été donnés. Les prophètes, vous savez, ils s'adressaient à leurs contemporains. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ils n'étaient pas en train de parler uniquement pour des générations futures qui allaient arriver des siècles après. Si Dieu a révélé ces messages au moment de ces différents prophètes, c'était parce qu'ils avaient quelque chose à dire à leurs contemporains. Sinon, il aurait pu le révéler plus tard. Dieu n'a pas besoin de dire, voyez, voyez comme je contrôle les choses, des siècles à l'avance, j'ai prédit ce qui allait arriver. Vous savez, le Seigneur n'est pas de ceux qui roulent des mécaniques pour montrer combien il est impressionnant de sagesse et de puissance. Il veut interpeller ceux à qui il s'adresse. Et les prophètes, les messages prophétiques, étaient adressés à leurs contemporains, et lorsque nous les considérons comme cela, nous pouvons aussi aujourd'hui encore nous laisser interpeller par eux et nous inviter à changer d'avis dans un retour à Dieu. Ça, c'est une constante chez les prophètes. On peut rappeler cet appel à la conversion, au retour à Dieu. C'est une constante parce qu'il y a une autre constante, c'est celle du cœur humain et sa tendance à s'éloigner de Dieu. Ça aussi, c'est une constante. Parce que naturellement, il nous est facile d'oublier le Seigneur, de nous détourner, de nous éloigner de lui, happés par différentes préoccupations qui nous éloignent du Seigneur. Sans cesse, les prophètes appellent à revenir à Dieu. On peut lire dans les prophètes un regard critique sur leurs contemporains, sur la société dans laquelle ils vivaient, qui dénonce des injustices, des oppressions, la cupidité, l'idolâtrie qui envahissaient leur peuple. Autant de pratiques, d'attitudes qui témoignent de l'éloignement de Dieu. Et quand on lit les prophètes, beaucoup de prophètes, textes prophétiques de l'Ancien Testament, on est frappé par la pertinence qu'ils gardent aujourd'hui, par la pertinence des interpellations qui sont adressées au peuple. Il suffit de considérer la réalité de notre monde aujourd'hui, notre société occidentale, avec les injustices sociales, avec cet écart toujours plus grand entre les quelques grands riches et les pauvres, cette perte de valeur globale dans bien des domaines, la stigmatisation de certaines populations, alimentant des peurs et pensant que ce sont elles qui sont responsables de tous les maux de notre monde et de notre société. Tout ça, on le trouve dans les messages des prophètes. Relisez les premiers chapitres d'Ésaïe, on aura presque l'impression que le prophète l'a écrit aujourd'hui. Il y a une pertinence dans ces interpellations parce qu'ils répondent au travers d'une tendance récurrente de notre cœur à nous éloigner de Dieu. Et ce serait trop facile de penser que nous ne sommes pas concernés. C'était seulement pour le temps des prophètes, ou c'est seulement pour les autres, pour les non-chrétiens, les non-croyants, c'est pas pour l'Église quand même. Non. Mais est-ce vraiment le cas? Pensez-vous vraiment, honnêtement, que nous ne sommes pas aussi contaminés par l'esprit du siècle? Qui oserait dire que nous n'avons aucun, que sur nous n'a aucune emprise le matérialisme, le consumérisme, le relativisme, l'égocentrisme. Nous ne sommes pas concernés par tout cela ? Pas sûr, hein ? Les prophéties, elles sont là pour interroger nos vies. Nous faire prendre conscience de ce qui nous éloigne immanquablement du Seigneur et nous appeler à revenir à lui, parce que c'est là qu'est la vie. Mais les prophètes ne se contentent pas de dénoncer. Vous savez, ce n'est pas seulement des oiseaux de mauvais augure, des oiseaux de malheur, les prophètes. Ils ont aussi un message d'espérance à annoncer. Et ils nous invitent aussi à changer d'avis malgré les apparences. Parce que les prophètes étaient là pour redonner l'espérance. Malgré des épreuves, Dieu poursuit son projet. Malgré nos infidélités, Dieu poursuit son projet pour nous. Ça aussi, c'est une constante chez les prophètes bibliques. Les prophètes, ils n'étaient pas envoyés par Dieu quand tout allait bien. Regardez dans l'histoire biblique, c'est pas en période de paix, de prospérité, où tout le monde allait bien, que les prophètes se levaient pour annoncer les messages de Dieu. C'était en temps de crise. C'est quand ça n'allait pas bien. C'était au moment de l'exil. C'était juste avant l'exil, quand il y avait les menaces des peuples étrangers. C'était au moment où le peuple était gangréné par l'infidélité et l'idolâtrie. C'était quand le peuple était déçu dans son retour, déçu dans ses espoirs. C'est dans les moments de crise, les moments où ça ne va pas, que Dieu envoie des prophètes pour annoncer un message. Non seulement dénoncer ce qui ne va pas, mais dire aussi que même si tout espoir semble perdu, l'espérance est possible, parce que Dieu poursuit son projet. Et ça aussi, c'est une pertinence pour nous aujourd'hui. Nous devons retrouver cette espérance que nous donnent les prophètes. Vous savez qu'on vit un temps de crise, je ne vous apprends rien. Un temps qui, on le sent, on le voit, on l'entend, alimente une morosité ambiante, incapacité à nous projeter vraiment dans l'avenir. Notre société déprime globalement, elle ne va pas bien. Notre monde a l'impression que l'avenir n'est pas rose. Et cette morosité-là, elle a tendance à cristalliser des peurs, faire naître des haines de l'autre, trouver des boucs émissaires, des responsables, des peurs parfois irrationnelles. Nous ne devons pas nous laisser gagner par cette morosité et par ces peurs. Nous ne devons pas être comme le personnage qu'on a vu tout à l'heure, dessiné par Alain Oudercet, qui ne voit que le mauvais temps d'hier, de demain ou d'aujourd'hui. Il nous faut nous laisser animer par l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Une espérance du projet de Dieu en train de s'accomplir, une espérance qui ne dépend pas des circonstances, mais qui repose sur la fidélité de Dieu à accomplir son plan et son projet pour nous, pour son peuple, pour l'humanité. Alors voilà, simplement pour conclure, dissiper un malentendu à propos des prophéties, c'est bien. J'espère que vous ne considérerez plus les prophéties bibliques comme de simples prédictions. Mais recevoir un texte biblique pour ce qu'il est vraiment, c'est mieux encore. Laissez-vous donc sans cesse interpeller par les prophéties bibliques. Parce que finalement, il y a deux raisons pour lesquelles les textes prophétiques de la Bible ont gardé toute leur pertinence. Parce que le cœur de l'homme n'a pas changé et parce que l'intention de Dieu n'a pas changé. Nous sommes toujours enclins à nous éloigner de Dieu. Et Dieu est toujours en quête de renouer la relation avec nous. C'est un message au cœur des prophéties bibliques. C'est ce double message que nous devons entendre aujourd'hui encore, qui nous invite à un regard lucide sur nous-mêmes et nos infidélités, mais aussi un regard plein de confiance et d'espérance dans ce Dieu qui nous aime, qui veut être en relation avec nous et qui veut accomplir son projet pour chacun de nous. Amen.